m'ont donné la tâche d'introduire et de présenter cette section. Alors j'aimerais au moins introduire tout le monde. Donc Tom Pennington a prêché ce matin, un de mes pasteurs préférés. Les gens applaudissent. J'ai travaillé avec Tom pendant plus d'une décennie avec Grace to You. Et tout ce qu'il y a de bon dans ma réputation, c'est peut-être à cause de Tom. Parce que c'est celui qui a fait fonctionner Grace to You pendant toutes ces années. Et comme John l'a dit ce matin, ce qu'il a établi est resté. Steve Lawson, vous connaissez, c'est un de mes prédicateurs préférés. Les gens applaudissent. Et j'apprends toujours quelque chose de nouveau de lui. Il y a toujours beaucoup de contexte historique et de richesse. Il y a beaucoup de prédicateurs que c'est facile de distraire quand ils prêchent, mais pas lui. John MacArthur, bien sûr. Je lui dois tellement. Il m'a enseigné tellement de choses que je connais sur la parole de Dieu. Et je l'aime beaucoup. Et je peux parler à son sujet pendant des heures, mais j'aimerais vous parler avec Todd et Justine. Justine habite en Oklahoma, où mon père a grandi. Il habite chez moi, dans mon pays. Et j'aime beaucoup Justine, c'est un très bon orateur. Il a fait beaucoup plus que la plupart des leaders pour montrer les faiblesses et la réalité du mouvement charismatique. Il est très fort à trouver des vidéos YouTube qui semblent que personne ne te peut trouver, qui sont très très intrigantes et qui peuvent aider. Et c'est un très bon enseignant, un très bon ami. Et Todd Friel, qui est un de mes hôtes de radio préférés, qui est très très fort. C'est un homme très très méchant, je dirais, avec beaucoup de respect, dans le sens que il m'a embarrassé tellement de fois à la radio, et pourtant je l'écoute tout le temps parce qu'il a beaucoup de choses à apporter. Lorsque je l'ai entendu pour la première fois, il avait un show à Minneapolis. Je pensais qu'il était très drôle, avec beaucoup d'énergie, et quelqu'un doit le mettre dans le droit chemin et il va avoir des problèmes un jour. Mais le plus je l'écoutais, le plus je me disais, il a vraiment une capacité unique de savoir où la ligne est, sachant quand ne pas la dépasser. Et il voulait utiliser des citations de MacArthur sans contexte et il voulait permission d'utiliser les citations de MacArthur quand il voulait. Au départ, j'ai dit non. Mais plus j'écoutais à son show, plus je me suis aperçu qu'il était très, très doué. Et finalement, je l'ai rappelé pour dire qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais enfin, bon, ça va aller vite. Alors, attachez vos ceintures et Todd va nous diriger. Et voilà, dit Todd. C'est ma diète de worm, comme Luther qui devait faire face à l'Église catholique en 1521. Bien sûr, vous saurez ça, monsieur Lawson. Il y en a un qui porte un costume ici qui n'est pas comme les autres, c'est moi. On aurait dit que Luther, lorsqu'on lui a dit, on lui a demandé de renier sa foi, il a dit qu'il avait besoin d'un jour de plus. Et Il était un homme, un leader. Et pourquoi est-ce qu'il voulait une journée de plus qu'il a requis lors du débat? Et si vous avez déjà visité l'église de Worms, c'est possible qu'il tout simplement était intimidé de la grandeur de l'église et de l'événement. Et je me sens un peu comme ça. Et j'étais sur YouTube pendant des années et maintenant je vais être ici parmi vous. Aujourd'hui, ce qui va se passer, il va y avoir deux sessions de questions-réponses. Et je vais essayer aujourd'hui d'être plutôt théologique. Et demain, dans notre ensemble, je vais essayer d'être un peu plus pratique. Et bien sûr, les deux vont se confondre un petit peu, mais on connaît des gens qui sont dans ce mouvement et on aimerait savoir comment leur parler, comment les aider. Quel genre d'association est-ce qu'on peut avoir? Comment répondre? Tout ça, on va parler de ça demain. Et il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont soumis des questions et nous avons regardé à ces questions. Je les ai dans mon portable et on va essayer d'aborder les catégories majeures de ce que nous avons vu. Et dans le blog de Grace to You sur le website, on va répondre à toutes les questions qui ont été posées. D'ailleurs, si vous avez été à la conférence, si vous êtes détaché de votre téléphone et vous n'avez pas suivi Fox News, oui, c'est. On connaît, ça fait partie de l'équation. On est sauvé, on regarde Fox à la télé et on achète un fusil. Les gens rient. Fox News disait que O.J. Simpson veut être un télé-évangéliste. Et on peut s'attendre à ça dans 28 ans, lorsqu'il sera finalement libéré pour faire cela. Les gens rient. Alors cette conférence, c'est la conférence du feu étranger. L'année prochaine, on va parler de l'eau étrangère et différentes vues de baptême, c'est une blague. Mais j'aimerais parler de mots qu'on entend dans la communauté charismatique. Et ce terme de charismatique, d'une ombrelle très grande qu'on va utiliser, des mots qu'on utilise beaucoup et j'aimerais que vous m'aidiez à répondre et à simplement être en dialogue avec leur vue, avec quelques clips qu'on va montrer. On va vous montrer quelques clips. Et j'aimerais simplement que vous puissiez voir des choses qu'on a parlé. C'est pas simplement pour rire, mais parce que certaines de ces choses sont vraiment extrêmes. Et on aimerait être en dialogue avec eux dans leur propre monde. Et un mot qui utilisait beaucoup dans le monde charismatique est le mot feu. Et on va regarder les clips 16 et 20. Et dans ce clip que j'ai décrit, vous pouvez regarder, il va probablement avoir un lien avec le dossier. Il y a un homme qui s'avance en face d'une scène dans une rencontre charismatique, et il lève les bras et le prédicateur l'attrape par le torse et crie feu, feu! Et l'homme tombe par terre. Alors les gens le relèvent et il semble un peu blasé. Le prédicateur lui dit de le regarder et il crie feu en feintant de le frappant. L'homme tombe par terre, enlève ses vêtements, pas complètement, commence à courir dans l'église alors que d'autres personnes gesticulent à terre. C'est le show de Ronnie Howard, le clip 20, fait partie de Jesus Culture. Et le mot feu dans le contexte de Jesus Culture, qui est un groupe musical qui est très suivi par la jeunesse. Donc le clip est une chanson qui parle de feu qui descend du ciel. Il y a à peu près 16 000 étudiants ou jeunes qui sont au concert et tout ce qu'on entend, c'est que le feu descend et le chant continue pendant un long moment. Et dans ce concert, les gens appellent le feu à descendre. C'est un thème qu'on voit persistant du ciel. Et donc, l'hôte demande, est-ce que le feu qui descend du ciel, est-ce vraiment quelque chose qu'on veut voir? Du feu qui dépend du ciel. Avoir un cœur qui est mis au feu. Théologiquement, comment on répond à cette prière d'appeler un feu qui descend du ciel? Et Tom Pennington répond, la réponse d'acte 2, mais bien sûr, il y a cette image en Pentecôte avec le feu, essentiellement qui représente l'esprit, la venue de l'esprit et l'expression de l'esprit dans le don des langues pour un but spécifique de confirmer les apôtres, de confirmer l'apostolat et de confirmer au peuple juif que le peuple de Dieu était maintenant trouvé dans l'Église. Mais maintenant qu'on n'est pas dans ce contexte, d'appeler au feu, c'est vraiment quelque chose que d'expérience. Et MacArthur exprime, ce n'est pas vraiment un événement qui peut se répéter, la Pentecôte, même si cette réalité s'est passée il y a 4 fois dans les groupes différents, avec les Samaritains et les païens avec Corneille. Mais de transformer Pentecôte dans une sorte de moquerie où on peut vraiment appeler du feu venant du ciel, c'est pas biblique, mais c'est de la folie. Mais c'est plus que ça, c'est de la manipulation. C'est le contrôle des esprits, c'est... Lorsqu'on regarde les gens qui dirigent ces ministères, c'est des gens qui manipulent les gens. C'est manipulation de l'esprit. Et ce qui est terrible, qui est terrifiant, c'est que c'est démonique. De point de vue supernaturel, le feu est descendu du ciel en Lévitique 10 et a consumé les adorateurs, ceux qui ont offert le sacrifice. C'est le but de cette conférence. Jean parle du baptême du feu, et ça, c'est le jugement de Dieu. Et je ne pense pas que ces gens sont tellement anti-bibliques, ils sont tellement habitués d'utiliser des termes bibliques sans le contexte biblique. Ils utilisent les mots. Et ça devient simplement des choses qu'ils utilisent pour manipuler la pensée des gens. Un feu a toutes sortes d'implications, de puissance et d'énergie. Et c'est vraiment un mot qui peut être utilisé parfaitement pour manipuler. La prochaine fois que le feu descend du ciel, ça va englober le monde dans le jugement. Dieu ne va pas envoyer un déluge une fois de plus, mais il va envoyer le feu. Et les éléphants vont fondre. Il va y avoir une explosion de tous les éléments qui vont fondre dans la chaleur du feu de Dieu, du jugement. Et je ne pense pas que qui que ce soit dans son bon esprit peut appeler à un feu qui descend du ciel. Parce que lorsqu'on regarde dans le futur, c'est un jugement, c'est une métaphore de jugement après la Pentecôte. D'être baptisé par le Saint-Esprit et le feu, le baptême du feu, c'est le jugement. Un autre mot qu'on utilise beaucoup, dit l'hôte, c'est le terme d'être oint. Et comment est-ce qu'on applique ça dans un culte d'adoration? Et dans ce passage, dans cette vidéo, dans ce clip que nous allons regarder, c'est la danse du Holy Ghost Hokey Pokey, donc la danse du Saint-Esprit Hokey Pokey. Et vous pouvez regarder, si vous allez sur Google, vous pouvez trouver un lien. Et j'écris la vidéo, C'est des gens qui dansent sur vraiment une chanson d'enfant, qui incite les gens à bouger certaines parties de leur corps. Et alors que le groupe joue d'une musique assez, assez engagée, il y a un homme avec un autre micro qui crie, appelant les gens à relâcher la gloire de Dieu. Pour le but de la guérison, et les gens crient, les gens dansent. C'est une vidéo avec une foule de centaines de gens. Et la vidéo continue pendant un long moment. Mais alors l'autre dit, il y a beaucoup de parler de d'être loin. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être loin? Est-ce qu'on peut être loin de nos jours? Et Justin répond, dans la Bible, si on est un chrétien, on est loin. Si on est régénéré par le Saint-Esprit de Dieu, on est loin. Ce n'est pas une question de sentiment ou de buzz ou d'expérience, c'est une réalité. En 1 Jean, en chapitre 2, verset 20, « Mais vous avez été loin du Saint-Esprit, du Saint. » Ce n'est pas pour peu de chrétiens, de super chrétiens, et que les autres, les communs chrétiens, ne peuvent pas avoir. Non, c'est une division de la chrétienté en classes qui ne devrait pas exister, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Si vous êtes en Christ, vous êtes loin. Il n'y a pas de division de classe dans la chrétienté. On est tous en un en Christ, on est tous au même niveau, au pied de la croix. C'est une compréhension fausse d'une réalité biblique qui est utilisée pour manipuler les gens, pour élever leurs émotions, des comportements. Et pour élever les faux docteurs qui se présentent en face des gens, comme s'ils avaient un statut supérieur, une source d'autorité supérieure, qu'ils ont un accès unique à Dieu, qu'ils ont une révélation unique personnelle de Dieu et une source de Dieu unique que les autres ne peuvent pas avoir. Et ça, c'est leur manière de s'isoler contre la critique biblique. Et si vous ne trouvez pas ces choses dans la Bible, ce n'est pas grave parce que j'ai été loin. Et j'ai une relation avec Dieu qui me permet de faire ce que je veux faire. Et même si vous ne voyez pas ça dans la Bible, parce que j'étais loin, ça se justifie. Et l'autre dit, c'est vrai que souvent, la critique, c'est qu'on ne peut pas toucher loin de Dieu. MacArthur répond, par rapport à ce que Justice a dit, ceux qui sont loin, c'est la promesse d'illumination de Dieu, du Saint-Esprit qui nous donne de comprendre la parole. Et nous avons ça, nous avons la parole, mais aussi l'enseignant de la parole. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin des enseignements humains, de la sagesse humaine. Nous avons été loin de Dieu par le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre sa parole. Tous les croyants ont cela. Cela vient avec la sagesse du Saint-Esprit. Nous ne pourrions pas vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, si nous pourrions comprendre la Bible, l'homme naturel ne peut comprendre la Bible, les choses de Dieu, mais nous avons la pensée de Christ. Pourquoi nous l'avons-nous en 2 Corinthiens 2:16? C'est parce que le Saint-Esprit nous enseigne les choses profondes de Dieu. Ça, c'est d'être loin. Mais c'est vrai, ils utilisent ce mot sans arrêt, les charismatiques, comme le roi et le prêtre et le prophète avaient été loin. Ils mettent leur leader au-dessus du peuple et ils s'élèvent comme s'ils sont au-delà de toute critique parce qu'ils ont été loin d'une certaine manière par Dieu, soi-disant. Et de notre côté, ce genre d'activité, c'est une activité païenne. C'est un blasphème, c'est une moquerie de la parole de Dieu. C'est une travestie de faire cela dans le nom de Christ. Et je ne sais pas comment ces gens survivent le feu qui devrait venir du ciel. Je ne sais pas comment Dieu peut exercer autant de patience qu'il a avec ces genres de choses. Et lorsque vous voulez connaître la vraie réalité de la patience de Dieu, regardez ces choses, ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il est si patient? Parce que Dieu a des gens dans ce mouvement qu'il veut qu'ils soient rachetés. Et l'autre dit, je vais argumenter avec vous, Dr. Mark Mathieu, je vais jouer avec vous. Hein. Voici votre problème. Vous aimez le cello et l'organe, et ça, c'est notre manière d'exprimer notre adoration. Pourquoi juger quelque chose qui semble être rempli du Saint-Esprit? Mark Arthus répond, non, c'est une hystérie émotionnelle qui n'a pas de pensée derrière. C'est un vide d'esprit, ce n'est pas la vraie adoration. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est l'adoration de manière simple. L'adoration s'élève seulement lorsqu'on va profondément dans notre compréhension des églises, de la Bible et de Dieu. L'adoration est connectée avec notre compréhension de Dieu. Plus on comprend Dieu, plus riche est notre théologie, mieux on comprend la vérité biblique, plus notre adoration s'élève. On n'a pas besoin de mettre la musique pour que j'adore Dieu. Et des fois, je souhaite qu'il n'y aurait même pas de musique, des fois, et que je n'aurais pas besoin d'avoir affaire avec les sensations qui confliquent avec mes pensées. Une compréhension de Dieu qui est superficielle mène à une hystérie qui est superficielle. C'est facile de créer ce genre de transe qui n'a rien à voir avec l'adoration. Ce n'est pas connecté à l'adoration. C'est juste de l'hystérie. C'est sans réelle pensée. On a chanté des cantiques cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une théologie riche dans ces cantiques, dans ces chants. On n'a pas besoin d'être hystérique. On veut que notre pensée soit complètement engagée. J'aime les cantiques, je n'ai pas besoin d'entendre feu, 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 mille fois. Je n'ai pas besoin de 7 par 11, 7 mots qui sont répétés 11 fois. Je veux la doctrine, je veux quelque chose qui m'aide à comprendre davantage, des chants qui ont des vers et des refrains, pas simplement la même chose encore et encore et encore et encore sans profondeur. Pour moi, c'est pas l'adoration, c'est même pas la chrétienté. Il n'y a rien de différent qu'un concert de rock, et c'est une chose, c'est une manière de manipuler les gens. L'autre dit donc, la théologie, la profondeur de Hokey Pokey n'est pas profonde. L'autre pose une autre question, le mot gloire. Le mot gloire est utilisé très souvent, va être un autre clip, deux autres clips que c'est John Crowder. Il est de plus en plus populaire. Il est de plus en plus invité dans les églises. Et vous pouvez trouver ces liens encore sur le site. Et c'est John Crowder qui expérimente une espèce d'être sous spirituellement, comment dire. Et on le voit venir sur une scène dans cette vidéo où il se comporte comme un homme saoul qui ne peut pas marcher. Les gens rient dans l'assemblée. Il rigole. Il dit qu'il ne peut pas être cohérent. Et il prie Jésus en faisant le signe catholique de la croix et en faisant des bruits d'animaux. Et il dit, j'ai une prière que j'ai appris, que je vais vous apprendre. Et il dit, Dieu, j'aime d'être sous spirituellement de cette gloire pesante. Et répète ça plusieurs fois. Et puis un autre clip d'une église de Redding en Californie, c'est un mouvement qui est très très large, c'est l'église de Bethel. Et il parle de nuages de gloire qui vient plutôt en fait d'un système de ventilation. C'est une vidéo où les gens crient, les lumières sont éteintes et il y a des spots qui sont allumés vers un système de ventilation et donc on dirait qu'il y a des étincelles. Les gens applaudissent et crient. Et c'est la vidéo. Vous pouvez regarder ça sur un lien, je suis sûr. Et c'est tout. Et vous avez expérimenté, l'autre dit, la gloire de Dieu. Tom répond. C'est difficile de répondre à cela. C'est blasphématoire. Lorsque vous avez montré le clip, Moïse voulait voir la gloire de Dieu et voulait avoir la gloire de Dieu déclarée. Mais la gloire de Dieu, le mot de Dieu en hébreu, c'est kabod, qui veut dire le poids de Dieu. C'est ce qui est la pesanteur de la présence de Dieu. C'est ce qui nous fait tomber à genoux, mais il n'y a rien de pesant en cette expérience qu'on voit. Lorsque Dieu révéla sa gloire à Moïse, il devait se cacher parce que c'était trop grand, mais cette grande, la grande révélation de la gloire, c'est la révélation de son caractère. C'est ça qui était pesant et glorieux. Mais ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est irrationnel. MacArthur dit, si ça c'était la gloire de Dieu, tout le monde serait mort. Même Moïse ne pouvait pas voir la gloire de Dieu, dit John. La seule manière que la gloire de Dieu peut être révélée sans que les gens meurent, c'était au travers de Jésus-Christ voilé dans la chair humaine. Lorsque Jésus vint sur le mont de la transfiguration, Dieu protégea les disciples qui étaient là et Dieu les protégea pour qu'ils entrent dans un coma au lieu de mourir. Mais la gloire de Dieu est révélée en Christ. On voit ça en 2 Corinthiens, chapitre 4. La lumière de la gloire de Dieu est montrée en Christ. Et cette sorte de folie est sérieuse. C'est dangereux lorsqu'on commence à se moquer de la gloire de Dieu. Et le gars qui faisait ça, dans notre vidéo, si c'est pas quelque chose qui s'est... a pris lui-même à agir de cette manière d'être l'emprise comme l'emprise de l'alcool, il n'y a aucune autre excuse mais quelque chose de démonique. Pour cette prochaine question, je vais demander à Steve de ne pas répondre, à Steve Lawson, mais les autres peuvent répondre et les gens dans l'assemblée rient. Steve dit Je sauvegarde mon énergie pour ce soir. Alors Steve répond, lorsqu'on va dans un dictionnaire, si on va dans un dictionnaire et qu'on regarde à la définition de stupide, on verrait ces photos. Ces choses, c'est vraiment quelque chose d'insensé. Le mot de gloire est utilisé en deux manières. Il y a la gloire de Dieu qui vient de Dieu et la gloire de Dieu qui est aussi donnée à d'autres. Il y a la gloire de Dieu qui est la somme de toutes les perfections de Dieu, les attributs de Dieu, la plénitude de son être éternel. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui ne puisse ajouter quelque chose à cette gloire qui vient de Dieu, la gloire émanante de Dieu. C'est le Dieu qui était, qui est, qui sera pour toujours. Il ne change pas d'âge en âge. Et c'est la somme de sa sainteté, de sa transcendance, de son indépendance, de son autonomie, de sa souveraineté, de sa justice, de sa vérité, son amour, sa grâce, sa miséricorde, son omniscience, son omniprésence. Tous ces attributs de Dieu forment cette gloire intérieure de Dieu. Mais il y a aussi la gloire que Dieu partage, ou la gloire qu'on donne à Dieu, la gloire qu'on lui donne lorsqu'on l'adore, qu'on lui attribue la gloire qu'il mérite. Et le plus nous comprenons sa gloire intérieure, le plus on peut lui donner la gloire. Et donc une vue dignée de Dieu mène à une adoration limitée, et une grande vue de Dieu mène à une grande adoration. Et ceux qui n'ont pas de connaissance de Dieu et qui connaissent si peu de Dieu, qui savent pas qu'il faut partir de ce genre de milieu, c'est difficile de répondre à ça. Ils ne savent pas ce que la gloire, ne comprennent pas le concept, ne connaissent pas la vérité, regardant la vérité, la gloire de Dieu. Mais le premier clip, cet homme, il a un esprit étranger, avec un petit S, et quelque chose d'étrange avec cet alcoolisme religieux. Et l'autre demande, j'aimerais simplifier les choses un petit peu, parce que lorsqu'on regarde à ces choses, les gens qui ont un arrière-plan théologique, pour nous, on reconnaît, bon, il y a quelque chose de bizarre, d'étrange et de pas bon. Mais comment répondre à des gens qui sont dans ces milieux et qui n'ont pas discernement? Et Steve Lawson dit, s'ils sont dans ce milieu, je pense que ce qu'il faut leur donner, c'est vraiment l'évangile. Je ne sais pas comment quelqu'un de sauvé, de régénéré, pourrait rester dans ce genre d'environnement pour trop longtemps. Surtout lorsqu'on parle d'être loin, comme on en a parlé, j'aurais peur d'être dans un bâtiment comme ça, comme si je serais dans un milieu religieusement satanique. Ok, l'autre dit, ok, si je suis l'avocat du diable, disons, j'aime sauter, j'aime danser comme David devant l'Éternel, pourquoi est-ce que c'est mauvais de faire ça? Steve répondit, mais il y a pas, les gens réfléchissent pas quand ils agissent comme ça. Il n'y a pas d'exaltation de Christ, c'est simplement un contrôle de la foule, c'est de la musique qui affaiblit l'esprit. Et je dirais même, on a besoin d'être presque instable émotionnellement pour vouloir être dans ce genre de milieu. MacArthur répond, David, en réponse à la vérité la vérité de Dieu s'exprime physiquement, c'est tout ce que la Bible dit, c'est ce qu'on fait. Ce genre de danse n'est pas sensuel, ce n'est pas stupide, sans contrôle, comportement bizarre. C'est simplement que David voulait offrir tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait, il voulait offrir à Dieu. Mais ça, c'est vraiment différent. Et ça parle d'une issue, Todd, je dirais, que Steve a vraiment cloué sur le poteau. C'est, on divise pas le corps de Christ dans cette conférence. On essaie d'identifier le corps de Christ et de montrer que ces gens ne font pas partie du corps de Christ. C'est pas possible. Les gens sont allés sur Twitter toute la journée et on m'a dit que sur Twitter, Strange Fire, cette conférence du feu étranger, c'était le Twitter avec le plus de hashtags sur l'Internet, dans le monde, en ce moment. On était même 7 points en tête de Kim Kardashian. Kardashian. Les gens rient. Mais une des critiques que nous avons reçues, c'est que c'est... On parle de nos frères et sœurs, on divise, mais je dis non, c'est pas le fait. Est-ce qu'on devrait être content sur celui? Non, on devrait être brisé dans nos cœurs. On parle de feu, on parle de couper des branches, et on a besoin de secourir ces gens. Et il y a deux choses qui sont dans mon esprit par rapport à cette conférence. C'est le déshonneur qui est donné à l'esprit, le reproche qui tombe sur nous. Comme Jésus disait, le zèle de ta maison est tombé sur nous, il nous consume. Et deuxièmement, la réalité que ces gens sont perdus dans un système qui utilise Jésus à droite, à gauche, sans connaître l'évangile, sans le comprendre. Et le plus je pense à toutes ces choses, vous savez, dimanche matin, ici, je vais donner un message sur l'évangile et qui est vraiment sauvé. Parce que c'est vraiment la question qu'il faut. Qu'on doit se répondre. Et je dis, les gens ne peuvent être sauvés dans ce mouvement jusqu'à ce qu'ils entendent l'évangile. C'est ça qui sauve. Et l'autre dit, puisque cette question est tellement importante, les gens peut-être peuvent répondre, oui, je sais, John MacArthur, il y a beaucoup de choses bizarres. Et dans des enfantillages, mais je pense que ces gens peut-être puissent être des frères et des sœurs. John MacArthur répond, et c'est la même chose avec les Mormons. Ils sont gentils, ils s'habillent bien, ils ont une cravate, ils s'habillent bien. Et John dit à Todd, l'hôte, on pourrait même te confondre pour un d'entre eux. Et donc Todd donne la parole à Justin, qui répond, j'aimerais dire, pour ajouter à ce que John MacArthur disait, c'est que cette question est très sérieuse et les gens dans ce mouvement, la plus grande majorité, la majorité n'est pas sauvée. Et ce qui est vraiment confus et qui c'est que la terminologie, les termes sont souvent les mêmes, mais le sens de ces mots est différent. Et comment c'est enseigné, c'est pas la même chose. Et honnêtement, je sais que lorsque je vais dire ça, je vais me faire des ennemis, même avec ma dénomination, Baptiste du Sud. Une des choses qui rend tellement difficile d'avertir les gens des faux docteurs, c'est que les bonnes personnes, c'est que souvent les bons gars s'associent avec les mauvais gars. Et ils donnent crédibilité à ces gens. Et le même mouvement, la parole de foi charismatique, le mouvement, dans ce mouvement, ce qui est confus les gens, c'est que... Et les gens disent, mais j'ai vu cette personne avec le Paul Crash, ou avec Marcus Lem, ou en Destar, ou en TBN. Et ça rend les choses très difficiles pour nous d'avertir les gens de ces loups lorsque le leader des moutons s'associe avec les moutons et leur donne... Hein, Paul Crouch aime avoir les bons gars de son côté, parce que lorsque les bons gars sont avec lui, il donne une certaine crédibilité que lui n'a pas en lui-même. Paul Crouch, TBN, des stars, TBN, c'est la pointe de l'arme qui exporte ce poison au reste du monde. Et les gens qui regardent ça dans le monde, ils voient des leaders prominents des Baptistes du Sud ou des gens comme Robert Jeffers sur TBN, sur Fox News, avec Bill O'Reilly, et qui endorsent, qui sont derrière ces choses, ces pratiques, appelant les catholiques nos frères en Christ, ces choses sont des insultes à l'évangile. Et ces leaders devraient savoir davantage. Et les leaders qui sont appréciés, ils partagent un pain de communion avec les mauvais gars. Et l'autre dit, j'ai le don de l'encouragement, Justine, ne t'inquiète pas, tu es ruiné pour des années, puisque c'est mon encouragement, je te donne ça, la foulerie. La quatrième parole, tu te sens mieux, Justine? Ouais, j'espère bien. La quatrième mot, c'est le mot la dominion. C'est un mot qui a une définition pour la fin des temps. En bref, il croit qu'il y a 7 montagnes dans notre culture, les arts, la famille. Il believe que la nouvelle réforme apostolique, ils appellent les enfants les nouveaux combattants. Et les formes pour conquérir les 7 montagnes. Et une fois que ces 7 montagnes sont conquéries, alors Jésus va revenir. C'est cet argument sur la domination. Et il parle de 3 rivières. Il y en a. Et la rivière de Toronto, la Toronto du Kansas avec le IHOP, la maison internationale de prière. Et la 3e, c'est à Bethel, à Redding, en Californie, avec Bill Johnson. Ces 3 courants forment la nouvelle réforme apostolique. Et ils disent l'Église doit être équipée pour régner. Et de l'Église va venir un corps d'élite qui vont avoir un esprit, une mesure d'esprit supérieure, ils vont pouvoir racheter la création. Alors je dirais, l'autre dit, c'est très attractif pour les jeunes qui veulent avoir quelque chose à faire. Vous pouvez commenter là-dessus, mais j'aimerais que vous répondiez à ce mot, le mot domination, les dominions. Comment comprendre ce mot? Et où est-ce qu'ils vont... Où est l'erreur dans ce domaine? Steve dit que c'est le post-millénialisme où on pense pouvoir restaurer la terre, rendre les choses meilleures sous la domination de l'évangile et que Christ va revenir à la fin. Et pour moi, je pense que c'est contraire à ce que je lis dans la Bible, qu'à la fin, il va y avoir des temps de désespoir avant le retour de Christ et que les choses ne vont pas s'améliorer, mais vont devenir de pire en pire. Et je pense qu'il renverse la vérité. On ne peut pas faire venir le royaume sans que le roi ne revienne. Jésus-Christ lui-même, le Messie. Si vous lisez le Nouveau Testament et essayez de voir que nous devions rétablir la domination sur la terre, c'était quelque chose, un sujet de moquerie. Les gens du 1er siècle auraient ri. Les gens voulaient seulement survivre à cette époque, ne pas être mourir martyr. C'est une fausse eschatologie. John dit, ça commence pas avec la fausse eschatologie, ça commence avec une certaine folie égoïste, pensant qu'on a vraiment la puissance de pouvoir faire cela par nous-mêmes. Mais si on se le répète assez, il y a assez de gens qui suivent, ça commence à avoir une vie en soi-même et les gens sont trompés. Les jeunes ont un sens de justice et même parmi les évangéliques, beaucoup de jeunes se détournent de l'évangile parce que lorsqu'on va dans des endroits qui ont eu des difficultés comme dans la Nouvelle-Orléans et on va voir les gens qui sont dans la souffrance et on va voir les gens et on leur dit après la souffrance j'aimerais vous dire que vous avez besoin de Jésus-Christ pour le salut éternel. Les gens vont courir, ils vont partir. Mais si vous leur disiez, si vous venez avec de la nourriture, si vous venez avec des biens, les gens vont écouter. Mais ce qui est difficile, c'est la présentation de l'évangile. Et les jeunes ont un désir de changer le monde. Ils sont attirés par cela. Mais avec la mégalomanie, une surestimation de ce qu'ils peuvent faire, ils définissent leur eschatologie par rapport à tout ça. Mais ça vient vraiment d'une pensée égoïste et égotistique et orgueilleuse. Lorsque Rick Perry va essayer d'être président, MacArthur parle de cela. Et c'était basé sur le fait qu'il y a des apôtres de nos jours et beaucoup de fonds qui étaient pour la campagne. Ils gagnaient de l'argent en donnant des apostolats aux gens pour de l'argent. Et ils avaient divisé le Texas en différentes dominations, différents groupes avec ces faux apôtres qui avaient été établis. Et pour moi, c'est de l'égotisme, c'est de l'orgueil, c'est de la folie. Et c'est vraiment une œuvre, pour moi, de l'œuvre du royaume des ténèbres. Mais Steve Lawson est vrai de dire que ça va devenir de pire en pire jusqu'à ce que Jésus revienne et juge le monde avec un jugement qui parallèle le déluge, mais cette fois par le feu. Et Tom répond, le passage qu'on voit, c'est dans Daniel. On voit dans Daniel des royaumes qui sont tous humains, qui sont des animaux vicieux, et c'est ça que le monde va être. Lorsqu'on arrive à l'ancien des jours, à lui est donnée la domination. Et l'hôte dit, Todd, c'est pourquoi tant de jeunes sont attirés à ce mouvement? Et MacArthur dit, c'est pas vraiment basé sur ce qu'il dit, c'est la musique, c'est les cadeaux, c'est être libéré, c'est les émotions. Éteignez la musique, allumez la lumière, des lumières blanches, des vraies lumières, éteignez la musique, éteignez la lumière et essayez d'avoir quelqu'un vendre le même système. Ça va pas marcher. Il faut les manipuler et les rendre comme des zombies d'abord. Et Justine dit, toutes les croisades de guérison que j'ai été, et je peux pas les compter, ils ont toujours la musique qui est longue, répétée, et qui attire les gens dans un système presque d'hypnose primaire où les gens deviennent plus susceptibles. Il y a beaucoup de guérisons mentales, mais les guérisons physiques ne se passent jamais, qui peuvent être documentées presque jamais. Mais les gens sont susceptibles de cette musique émotionnelle qui peut durer pendant longtemps. Et MacArthur dit, on va pas trouver cette musique dans l'église réformée parce que c'est pas qui ils sont. Ils reviennent aux puritains, à Martin Lloyd-Jones, Spurgeon, Calvin, Luther, les apôtres. Et on parle de sainte théologie, de doctrine, d'obéissance, d'ordre, de parole. Et ce n'est pas le même courant, ce qu'on voit avec les charismatiques. C'est le monde qui envahit l'Église et qui essaie d'enlever les choses qui font vraiment partie du royaume, qui n'ont rien à voir avec l'histoire de l'Église et avec la sainte doctrine. Dans le Nouveau Testament, on voit deux groupes Tom Pennington dit, c'est qu'il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont pas en crise, qui sont poussés par les appétits du corps, par les émotions, et ceux qui sont en crise sont poussés par par la pensée, par l'esprit en Christ. Et c'est la pensée en Christ qui doit pousser les chrétiens. Mais l'attraction, dit MacArthur, c'est la même chose dans un bar. C'est la même ambiance, c'est sensuel, c'est de l'expérience qui nous déconnecte de la réalité de la vie. Et l'hôte ajoute, docteur MacArthur, vous pouvez nous dire qu'on va s'arrêter à ce sujet, mais j'ai choisi un autre clip. Ça, c'est la culture Jésus. Jesus Culture, c'est le groupe de cette église de Reading qui font des concerts partout dans le monde et qui peuvent asseoir plus 16 000 personnes dans leur audience très facilement. Et vous pouvez vous attendre à ce que beaucoup de vos jeunes dans vos églises ont des chants de ce groupe sur leur iPod. C'est presque sûr. Et j'ai choisi donc de prendre un de ces chants qu'ils ont juste pendant 3 minutes, juste pour vous donner une image. Et on va regarder jusqu'à ce qu'on s'évanouisse ou que MacArthur dise « c'est bon, c'est assez, on continue ». Et c'est la Jesus Culture qui demande d'être rempli de l'esprit, ou simplement d'être rempli. On voit un clip avec un grand auditoire, des milliers de gens, et le groupe avec une femme qui chante « Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi maintenant, remplis-moi. » Et répète la même chose en gesticulant de manière un petit peu sensuelle, je dirais. Vous pouvez regarder le clip. En anglais, c'est « Fill me up ». Beaucoup de gens dans l'assemblée lèvent les mains et sautent ou gesticulent. La musique continue. Et la chanteuse continue à chanter les mêmes paroles et ils ont coupé. On revient avec... Et c'était une minute avec au moins 12 filmés pour Remplis-moi. Et l'autre, donc toi, dit ça, c'est très populaire. Mais il y a de la musique de Jesus Culture. Il y en a qui est passable. Et ce qui me concerne, c'est que certaines de leurs musiques, mes enfants l'aiment beaucoup. MacArthur dit, s'ils ne font rien d'acceptable, il n'y a personne qui va pouvoir acheter le système. Mais lorsqu'on voit cette chanson, il n'y a rien de chrétien là-dedans. Et de mettre notre esprit en vitesse neutre et de crier « remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi » dans un groupe souvent, je pense, de non-croyants. C'est une invitation que les gens ont pour des esprits qui ne sont pas de Dieu. C'est le paganisme, c'est comme le culte de Kundalini de l'hindouisme. C'est ce que les païens font. C'est des activités sans l'engagement de la pensée et de l'esprit. Et certains disent peut-être lorsqu'on accepte de dire qu'il y a du bon là-dedans, on ouvre une porte pour des choses graves qui peuvent venir. Et l'autre dit, peut-être, ils ont 50 chants, et il y a des chants qui n'ont rien de mauvais là-dedans. Et ces chants n'ont rien de mauvais. Et donc, il n'y a rien de problème si j'amène ces chants dans mon église ou pour que mes enfants l'écoutent ou dans ma maison. Et Justine répond, mais la musique, c'est juste une avenue pour les amener à écouter l'enseignement. Si la musique est populaire, c'est parce qu'ils veulent attirer les gens dans le mouvement avec Hillsong et la culture Jésus. C'est une avenue pour que les gens acceptent leur enseignement. C'est la même chose avec les Mormons. Les Mormons n'approchent pas les gens avec une liste de leurs hérésies. Ils ont l'air normaux, chrétiens, sont polis, et c'est pareil avec eux. L'allure a l'air propre et ça attire les gens. Et c'est pour attirer les gens dans leur système de croyance. Alors que ce qu'on voit là, c'est une marque de spiritualité, selon eux. C'est d'être spirituel, d'être dans ces transes, alors que c'est l'opposé. Et MacArthur répond, les évangéliques qui sont non charismatiques utilisent de la musique pour attirer les gens qui n'est pas acceptable. Ils utilisent la musique du monde pour sucer les gens, comme si les gens seraient sauvés parce que la musique du monde est attirante. C'est un gros saut entre être attiré de la musique du monde et d'être régénéré par le Saint-Esprit. C'est un gros saut. Il n'y a pas de connexion. C'est tellement proche de ce qui est dans le milieu évangélique, et même dans le milieu non charismatique, entre guillemets, évangélique. C'est un petit pas d'être attiré parce que le style est le même. C'est pas du rock extrême. C'est mélodique. C'est monotone et irritant pour moi, mais c'est pas si différent. Et c'est le même son qu'on voit dans les églises non charismatiques souvent, ou les églises qui sont charismatiques mais pas aussi extrêmes. Et Steve dit la théologie de ce refrain. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi du Saint-Esprit. Mais la vérité, c'est dans la Bible, c'est pas nous qui devons remplir le Saint-Esprit dans le sens que le Saint-Esprit doit nous remplir. On doit nous laisser remplir du Saint-Esprit. Nous devons nous donner davantage au Saint-Esprit. La sanctification, c'est pas simplement de répéter, d'être remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. La réalité, c'est qu'on doit mourir à nous-mêmes, on doit résister à la tentation, on doit s'opposer à la chair et de laisser la parole de Dieu remplir en nous, d'être un esclave de Dieu. Ce sont les choses qui vraiment mènent à être rempli de l'Esprit, de confesser les péchés, se détourner du monde, lever Christ, lever. Aimer Christ, ça c'est les choses qui démontrent un vrai remplissage de l'esprit. L'hôte Todd dit on va retourner à l'église de Bethel, le clip 22. On va revenir au mot feu dans l'église de Bethel, à Reading. On va retourner à la discussion des jeunes qui sont attirés par cela. Et on voit dans ce clip un tunnel de feu. Et on va regarder ce clip. Alors on voit dans ce clip, une fois de plus, il y a probablement un lien que vous pouvez voir, des gens qui sont allongés par terre, qui rigolent, qui font des bruits d'animaux, qui... Ils ont l'air d'être sous l'effet de narcotiques. De retour, l'hôte dit « J'aimerais explorer cela, mais en général, on a des pasteurs sur la scène avec moi. Qu'est-ce que les pasteurs disent ?» Et Tom répond « C'est choquant. C'est choquant lorsqu'on dit qu'on vit pour la gloire de Dieu, de voir... Dieu traité comme ça, c'est inapproprié. Pour moi, je pense aux deux premiers commandements. Premièrement, d'avoir un seul Dieu. Mais deuxièmement, le deuxième commandement, c'est pas simplement d'avoir des idoles, mais d'avoir une mauvaise adoration de Dieu, une adoration humaine du vrai Dieu. Et c'est ce que le deuxième commandement est. Et c'est là le principe qu'on ne décide pas comment on pense que Dieu doit être adoré, on n'invente pas comment on veut que Dieu soit adoré, c'est les Écritures qui façonnent notre adoration. Et le Nouveau Testament nous explique pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait dans l'adoration. Lorsqu'on vient pour adorer Dieu, je dis à mon assemblée, on ne fait pas ça parce qu'on aime, parce que ça nous plaît ou parce que c'est populaire, c'est parce que les églises font. On fait ça parce que c'est prescrit dans le Nouveau Testament. Ces attitudes, on le voit pas. On le voit pas dans la Bible. Non, tout ce que nous faisons dans nos églises, c'est d'être centré sur la parole. On chante la parole, on prie selon la parole, on vit selon la parole. Et dans ces choses qu'on voit, c'est de l'idolâtrie parce que c'est pas de la parole. C'est même une violation du premier commandement, mais certainement du second commandement, parce que c'est pas une vraie perception de Dieu. L'auteur répond, un des principes donc de l'adoration, une des réponses les plus répétées par rapport à votre opposition, il n'y a nulle part dans la Bible que le Saint-Esprit ne peut faire cela. Peut-être vous trouvez que c'est étrange, mais la Bible ne dit pas que le Saint-Esprit ne peut pas faire tomber les gens, les causer à être sous, ou courir en rond, penser qu'ils sont en feu. Alors pourquoi essayez-vous de mettre le Saint-Esprit dans une boîte? Tom répond, notre réponse est que Dieu a mis son adoration dans une boîte avec les commandements, le deuxième commandement. C'est pas à nous de définir une autre boîte. Dieu définit les standards. MacArthur répond, John, il y a deux choses à voir. Soit il y a un mandat, soit il n'y en a pas. Paul a demandé à Timothée, lis la Bible. Ça fait partie de l'adoration. Mais il y a aussi des exemples de ce qu'on fait dans l'adoration. On voit en 1 Corinthiens qu'il y a une régulation, il y a un ordre. Il y a des illustrations. On enseigne la parole, c'est un de mes exemples préférés. Comme par exemple, on voit que Paul qui enseigne la parole jusqu'à ce qu'il soit tellement ennuyé qu'il s'endorme et tombe de la fenêtre et meurt, on le ressuscite et on continue à enseigner. Mais on voit des exemples. On ne peut pas voir dans la Bible des gens qui tombent, qui aboient et qui tournent en rond. Les gens qui étaient assommés dans la Bible, c'est des gens qui étaient jugés. Mais jamais les croyants étaient assommés comme cela. Il n'y a pas d'évidence. L'argument qu'ils essaient d'utiliser est un mauvais argument. Parce qu'il n'y a rien... Il n'y a rien de biblique, mais c'est consistant avec leur philosophie. Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre au fait que le Nouveau Testament, c'est la fin de la révélation. Et ils veulent que Dieu continue de parler, il continue à me parler, il me donne des impressions à moi, des révélations, des visions. Alors bien sûr, lorsqu'on est soumis à cette philosophie, pourquoi ne pas aboyer, et sauter, et être en transe? La révélation continue et ça me vient directement, donc il n'y a plus de restreint sur quoi que ce soit. Un des cris de guerre te dit il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'on doit chanter des cantiques et qu'ils ont quatre parts musicales et chanter avec l'orgue. Et John répond, la Bible souvent... On voit une panoplie d'instruments dans la Bible. Le Nouveau Testament n'annule pas ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et on voit ça en Éphésiens. Un organe est juste un instrument parmi d'autres qu'on peut utiliser. C'est avant qu'il y ait des organes électroniques, des orgues, pardon, C'était des instruments à vent, c'était une manière de pousser du vent. Et c'était ce que faisaient les orgues. Et historiquement, l'Église ont aimé les orgues et les instruments comme ça parce qu'il y avait un exemple dans la Bible que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je pense que les guitares aussi louent le Seigneur, que les instruments modernes électroniques louent le Seigneur. Mais je pense que ces choses sont des accompagnements. La louange que Dieu désire avant tout, c'est la louange des gens. Ce qui est la musique, ça accompagne. Mais souvent, dans beaucoup d'églises, on s'assoit dans le noir, il y a des explosions de sons. Mais les gens dans ces églises ne savent pas ce que c'est le chant de l'assemblée, ils ne peuvent même pas s'entendre. L'autre courant dont je parlais répond l'hôte Todd. On va regarder deux clips supplémentaires. C'est la Maison internationale de prière au Kansas avec Mike Beckel. Et on voit une jeune fille qui a visité leur ministère pour être équipée. On va essayer de comprendre ce qui se passe pour cette jeune fille. On voit un clip. Et la jeune fille dit: le Seigneur trop bon, il y a de la musique douce derrière avec un groupe. Et elle tremble, elle bouge, elle gesticule. Elle ne se contrôle pas. Elle dit qu'elle est venue pour voir ce qui se passait. Elle dit: j'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Je savais pas que Dieu pouvait faire ça. Et l'hôte de cette vidéo dit: vous avez jamais vu donc la manifestation de Saint-Esprit comme ça? La jeune fille répond: non, j'ai jamais vu ça. Et elle tremble. Et on dirait qu'elle ne se contrôle pas. Et une autre dit que ça fait 2 heures qu'elle gesticule comme ça. Voilà, donc ça c'était la vidéo. La rumeur, dit l'hôte Todd, c'est que dans cette maison de prière, il y a toujours des gens qui prient. Il demande à Marc Arthur, cette secte du Kundalini de l'hindouisme, il y a beaucoup de parallèles avec le milieu charismatique. Et on voit ça dans le clip suivant du Kundalini. Kundalini. Une fois de plus, il parle d'être oint. D'être oint et quelque chose qui avait commencé dans un mouvement de l'hindouisme. Et un des réveils qu'ils appellent du Kundalini, c'est ces gens qui tremblent, qui gesticulent, qui ne se contrôlent pas, et qui bougent de manière bizarre et crispée. Et encore une fois, c'est une vidéo que vous pouvez probablement trouver sur Google. Les gens qui gesticulent de manière crispée. Et c'était un des signes de la secte du Kundalini et qui est maintenant dans les mouvements charismatiques. Et on retourne encore à la scène. John MacArthur décrit la vidéo. Donc on voit le milieu charismatique et hindouisme qui ont les mêmes pratiques. Et mon cœur est un fardeau comme ça pour une jeune fille comme celle-là qui peut être trompée comme ça. L'histoire de cette maison de prière, On peut voir que leur histoire n'est pas très propre non plus. Et Paul Kane qui était associé avec ce ministère, mais c'est la manière avec laquelle Satan s'habille pour tromper les gens. Si Jésus était ici, je pense que Dieu ferait avec ces femmes ce qu'il aurait fait dans la synagogue avec la femme qui était possédée et qui appellerait à ces démons à partir. Je ne sais pas ça. C'est ma suspicion, c'est mon sentiment. Quelqu'un qui dit « je n'ai jamais fait ça plus fort », c'est pas que j'ai jamais fait ça avant, c'est pas quelque chose qu'elle a appris. C'est terrifiant pour moi de voir ça. C'est un comportement qui probablement la cause d'un démon. Et dans ces expériences, c'est vraiment d'attirer les gens dans le royaume des ténèbres. Et je dirais, je pense pas que ces expériences puissent se passer pour des croyants, pour des vrais chrétiens. Et c'est pour ça que je pense que ces gens, ces groupes sont remplis de gens qui ont des expériences, qui parlent du nom de Jésus sans arrêt, mais qui n'ont pas eu la force du salut. Et c'est ces expériences qui sont tellement puissantes et qui ne sont pas de Christ, trompent les gens. Et je me souviens encore une fois parler à une personne, et il y a longtemps, une dame avec qui je parlais, un démon en elle, commençait à me parler d'autres avec des voix différentes. Et j'avais été ce pasteur pendant seulement un an ici. Et je lui ai demandé « Qui es-tu ?» Et il m'a dit « Jésus, Jésus, Jésus. » Et il répétait ça tout le temps. Et la fille renversa le bureau. Et je savais que je ne parlais pas à Jésus. Donc si Satan peut faire penser aux gens que ça, c'est Jésus, alors c'est la tromperie ultime. Et si, quand on finit, si je puis dire, dit Lot, Todd, ce n'est pas une activité qui est extrême dans une minorité, c'est quelque chose qui attire des millions et des millions de gens dans la planète. Et ces enseignants, ces leaders, ces faux docteurs et ces loups doivent être repris, doivent être corrigés, et les gens qui les suivent sont esclaves au péché, sont esclaves à Satan, et ils sont perdus jusqu'où nous l'étions. Lorsqu'on voit ces choses, ça nous attriste. Et je pense que, comme on va voir demain, sur notre manière, comment on peut répondre à cela, je pense qu'on doit commencer en disant qu'on doit évangéliser les gens autant que possible avec l'évangile de Christ, parce que les gens sont perdus. En disant cela, je pense que ces gens sont esclaves au péché, sont esclaves à Satan, ils sont perdus. Je pense qu'on doit prier. Steve, si tu veux prier pour nous. Père Céleste, c'est difficile de savoir comment répondre à ce que nous avons vu, sauf si Dieu, c'est d'exprimer notre reconnaissance que tu nous as révélée à nous au travers de ta parole, par ton esprit, et que tu nous as sauvés par ton esprit et régénérés, et nous te louons pour cela, nous te rendons grâce que tu nous as secourus du royaume des ténèbres et nous as transférés dans le royaume de lumière, et que par ton initiative divine tu t'es fait connaître à nous, et que la vérité nous a libérés. Père Céleste, je prie que tu puisses nous utiliser pour secourir les gens qu'ils ont été faits à ton image, qu'ils ont été corrompus par le péché, qui sont devenus esclaves de péché, liés dans des liens de ténèbres. Je prie que tu nous utilises d'autres, et la prédication de ton évangile qui est ta puissance pour le salut, que tu puisses dans ta souveraineté, vaincre et surmonter leur résistance et que tu puisses les amener à la connaissance qui sauve en Jésus-Christ. Père Céleste, je te prie que tu puisses nous donner de la sagesse à tous les pasteurs, aux anciens, aux leaders spirituels, pour savoir comment conseiller les gens, donner des conseils aux gens par rapport à ces choses, et comment savoir au travers de la prédication, pour montrer des implications au travers du texte de la Bible, pour montrer comment enlever le voile de ces tromperies et de ces forgeries. Père Céleste, ça semble que tu nous... C'est un abandon, comme en Romains 1, que tu nous abandonnes. Comme tu... En Romains 1, l'abandon que tu nous laisses. Premièrement, en Romains 1, pour dans l'homosexualité, mais encore une fois, on voit quelque chose de la folie qui se passe. C'est irrationnel, sans logique. Et on prie, Père Céleste, que tu puisses avoir miséricorde sur tellement de gens comme ceux qu'on a vus. On prie que la prédication de la parole de Dieu puisse être projetée avec puissance, que ton peuple puisse être encore plus équipé avec l'armure pleine de Dieu pour pouvoir avancer dans ce monde et être utilisé par toi pour atteindre les gens pour Christ. Donne-nous du discernement. Donne-nous du discernement qui pénètre au-delà de ce qu'on voit et ce qui est populaire et ce qui attire les gens. Donne-nous d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Et Dieu, je prie encore une fois que tu puisses nous aider d'identifier ton Église, les vrais croyants, et que nous puissions être fortifiés dans la vérité et capables d'atteindre ceux qui ont besoin de toi et qui sont perdus et qui ont besoin de la connaissance qui sauve en Jésus-Christ. On sait que tu es plus puissant que celui qui est dans le monde et on est conforté par cela et que la lumière va vaincre les ténèbres. Et je prie ainsi, Père Céleste, que nous puissions être armés avec la vérité et que nous puissions briller avec la lumière de Dieu sans être une lampe qui est cachée, mais une lumière qui brille dans les ténèbres de ce monde, et que cela puisse te plaire de te manifester de manière rédemptrice dans la vie de tellement de gens qui sont pris dans des mouvements qui sont erronés. On plaide, Père Céleste, que tu puisses faire cela, que ton nom puisse être exalté, que ta gloire puisse être manifestée. Père Céleste, on prie dans le nom qui est à la tête de l'Église, Jésus-Christ. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.